VOA Afrique, les infos. À Washington.
John Lyndon à la présentation. Bonsoir à tous. Le président américain Donald Trump a remercié samedi pour ses services Steve Bannon, son ex-conseiller controversé et grand allié dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, congédié la veille. Je veux remercier Steve Bannon pour ses services. Il a rejoint la campagne pendant ma candidature contre Hillary Clinton. Ça a été formidable. Merci Steve, a écrit Donald Trump sur Twitter samedi matin. Proche de la Alt-Right, mouvement de l'extrême droite américaine, Steve Bannon, 63 ans, a repris depuis hier ses fonctions de président exécutif au sein de Breitbart News, site d'information proche de l'extrême droite, affirmant qu'il partait en combat. Il partait au combat pour Trump et contre ses opposants. Au Togo, un parti d'opposition a appelé à une manifestation ce samedi dans le pays. Il s'agissait pour lui d'exiger le retour à la Constitution de 1992, votée par référendum et qui limite le mandat présidentiel. Mais cette manifestation a dégénéré. On fait le point avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Plusieurs villes togolaises ont été rythmées par des violences ce 19 août. À l'appel du Parti national panafricain PNP, des manifestations étaient prévues dans 5 villes du pays. Malheureusement, que ce soit à Lomé, à Agni, à Kpalime, à Kara ou à Sokodé, des affrontements entre forces de l'ordre et des manifestants ont été dénombrés. Sokodé, dont est originaire le leader du PNP, a connu le plus d'incidents avec au moins 7 morts, dont un mineur, selon Achadam Tikpi, président du PNP que nous avons contacté. Il précise qu'il y a eu des arrestations et plusieurs blessés par balle. Nous avons tenté de rentrer en contact avec le ministre de la Sécurité, Yak Damhan, pour confirmer ou infirmer les informations relatives à l'incendie du commissariat de Sokodé où des manifestants auraient emporté armes et munitions. Mais en réunion, nous n'avons pas pu le joindre. Précisons enfin que des manifestations ont également eu lieu en Europe et aux États-Unis, notamment à Berlin et à New York.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Paul Kagame a prêté serment hier à Kigali pour un troisième mandat de 7 ans à la tête du Rwanda. Près de 99% des électeurs l'ont réélu lors de la présidentielle du 4 août. M. Kagame dirige son pays depuis la fin du génocide de 1994 et a réussi à le redresser économiquement. Il est toutefois critiqué pour son manque d'ouverture démocratique. Quels sont les nouveaux défis qui attendent le président Kagame? C'est la première question que Jacques Aristide a posée à l'analyste politique Henri-Désiré Zosi.
Je dirais que la première des choses sera d'amplifier la dynamique qu'il a su impulser au niveau économique et en termes de reconstruction de son pays, puisque les résultats qu'il a obtenus ces dernières années ont été confirmés par de nombreux rapports, comme ceux de l'indice de développement humain, comme ceux du Doing Business, qui permettent d'affirmer que c'est un pays africain qui tire plutôt son épingle du jeu en matière de bonne gouvernance. À côté de ça, évidemment, pose la question de savoir s'il sera dans le même temps en mesure de pouvoir ouvrir davantage le jeu démocratique, ce qui n'est pas forcément acquis, puisqu'il faut se souvenir quand même qu'il y a de cela quelques années déjà, l'une des figures les plus emblématiques de l'opposition, une femme, en l'occurrence Madame Ingabire, a été arrêtée et à ce jour, elle purge toujours sa peine.
Justement, Kagame est accusé de diriger le pays d'une main de fer. Il a dénoncé les tentatives d'ingérence dans la politique de son pays. Qu'en pensez-vous?
Bon, c'est de bonne guerre que de dénoncer des principes qui sont rappelés par des partenaires extérieurs. Tout le monde s'accorde à dire que Paul Kagame a effectivement mis de l'ordre dans son pays. Toutefois, il y a effectivement cette question liée notamment à la gestion démocratique du pays. Il y a des opposants en interne et en externe qui, dont les messages en tout cas sont relayés par une communauté internationale qui, tout en reconnaissant les efforts qui ont été consentis, souhaite ou en tout cas espère à tout le moins que le jeu démocratique sera plus ouvert pour les prochaines années.
Alors on peut bien critiquer Kagame, mais les Rwandais dans leur grande majorité veulent le maintenir à la tête du pays pendant encore longtemps. Est-il donc vraiment possible d'imaginer un Rwanda sans Kagame, du moins au terme de son nouveau mandat?
La question se posera à l'issue de ce mandat.
Fin de ce bulletin d'information présenté par John Lindon.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter VOA Afrique et surtout d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir, le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. Pour vous le présenter, je suis Rosine Mounezero et Mohamedou Oumpha est avec moi dans ce studio pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou.
Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous nous intéressons à la tuberculose, une maladie qui tue encore près de 2 millions de personnes chaque année et qui représente le premier facteur de mortalité chez les personnes séropositives. Docteur Moutaza Lusungu Baba.
Depuis des années, on a remarqué un taux de prévalence élevé. C'est des gens qui souffraient du VIH. On a trouvé que ces gens-là, à un moment donné, ils présentent la tuberculose. 80% des cas sont les poumons qui sont atteints. Là, on parle de la tuberculose pulmonaire.
Comment contracte-t-on la maladie? Comment réagit l'organisme? Nous écouterons le témoignage d'un malade.
J'ai attrapé une toux qui avait duré 14 à 15 jours. J'ai augmenté un peu de température et finalement, je me suis dit non, je dois aller voir le médecin traitant pour qu'il puisse examiner mon crachat.
Et nous irons aussi dans un centre d'encadrement de jeunes tuberculeux en RDC. Mais avant de continuer, voici l'actualité.
Coup d'œil sur l'actualité.
L'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin.
Bonjour Rosine.
Alors commençons par la RDC où le choléra a déjà fait 2 morts.
Oui Rosine, ces 2 décès ont été confirmés par Mwanza Nagunia, ministre provincial de la Santé du Sud Kivu. Depuis 2 semaines, nous connaissons une flambée de choléra sur presque toute l'étendue de la province. Nous sommes à plus de 35 cas par semaine dans la ville de Bukavu, mais c'est la zone de santé de Fizi sur le littoral du lac Tanganyika qui vient en tête avec plus de 70 cas par semaine, a-t-il souligné le 15 août dernier. Selon l'ONU, le choléra est devenu un problème de santé publique majeur. Des milliers de cas sont enregistrés chaque année dans de nombreuses provinces. En 2016, plus de 700 décès du choléra avaient été enregistrés dans ce pays.
Et puis sur place, la riposte s'organise.
Effectivement, un centre de traitement gratuit du choléra est installé à l'hôpital public dans la capitale provinciale Bukavu, touché par une pénurie d'eau depuis plusieurs semaines. Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU en RDC Ocha a annoncé la mise en place d'un comité provincial de crise pour la gestion harmonieuse de l'épidémie. Par ailleurs, l'ONG Médecins Sans Frontières a promis d'octroyer du matériel et des médicaments à certaines structures médicales de la province pour une prise en charge des cas.
Poursuivons par le Tchad. Dans ce pays, la malnutrition fait de nombreuses victimes.
Oui, Rosine, ce sont les ONG Alliance for International Medical Action, Alima en sigle, et Alerte Santé qui tire la sonnette d'alarme. Selon elle, des centres de nutrition installés dans la périphérie de la capitale accueillent près de 600 enfants mal nourris par semaine. Des enfants de 6 mois à 5 ans qui souffrent de diarrhée, pour la plupart, si l'on en croit, Rachid Yacoubi, chef de mission d'Alima. Pour le moment, les ONG Alima et Alerte Santé relèvent une pénurie de lits pour faire face à l'afflux des patients. Mais des efforts sont faits pour aider à la prise en charge des cas. Par exemple, de nombreuses mères ont été formées à l'utilisation du bracelet MUAC, un bracelet qui permet de diagnostiquer l'état nutritionnel de l'enfant. Alima a également formé près de 40 professionnels de la santé dans les meilleures pratiques de gestion de la malnutrition sévère.
Alors Firmin, comment expliquer cette flambée de malnutrition ?
Rosine, il faut savoir que chaque année, le Tchad est affecté par un pic de malnutrition infantile entre mai et août, lorsque les dernières réserves de vivres sont épuisées dans les villages. L'insécurité alimentaire oblige beaucoup de familles à migrer vers N'Djamena pour trouver de nouveaux moyens de subsistance. Ils se trouvent souvent confrontés à des crises économiques et sont forcés de vivre dans des quartiers précaires où les services d'assainissement sont insuffisants ou inexistants.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Terminons par le Cameroun où le navire hôpital Mercy Ships est arrivé mercredi dernier pour un séjour de 10 mois.
Il s'agit d'un navire affrété par l'ONG américaine Mercy Ship. Il est équipé d'un plateau technique constitué entre autres de 5 salles d'opération, une salle de réveil, une unité de soins intensifs, 82 lits d'hospitalisation et un système de télédiagnostic par satellite. Depuis le mois d'avril, les autorités camerounaises recensent les populations victimes de maladies rares sur toute l'étendue du territoire camerounais et plus de 6000 malades sont attendus dans le cadre de cette opération humanitaire.
Mais alors Firma, quelles sont les maladies rares qui seront soignées au cours de cette opération?
Rosine, les activités à bord du navire Hôpital Mercy sont essentiellement orientée vers la chirurgie et plus précisément la chirurgie orthopédique, les déformations liées au traumatisme négligé, les malformations congénitales, la chirurgie maxillofaciale, les tumeurs déformantes non cancéreuses et les goitres. Les médecins à bord du navire Hôpital Mercy procéderont aussi à la chirurgie plastique reconstructive pour réparer les anomalies congénitales, les séquelles de brûlures et les ulcères. L'équipe de chirurgie gynécologique traitera les fistules obstétricales et grosses fibromes. Des soins ophtalmologiques et dentaires seront aussi offerts. Cette initiative est surtout dirigée vers les patients et les populations pauvres et vulnérables qui n'ont pas toujours les moyens de payer pour ces opérations parfois coûteuses qui nécessitent souvent des évacuations sanitaires à l'étranger.
Merci Firma.
Santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine nous parlons de la tuberculose. Cette maladie est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. Et plus de la moitié des malades se trouvent en Afrique. La tuberculose et le VIH forment une association meurtrière, chacun accélérant l'évolution de l'autre. En 2015, selon les chiffres les plus récents de l'OMS, 35% des décès des séropositifs ont été dus à la tuberculose. Qu'est-ce qui cause cette maladie? Pourquoi est-elle fréquente chez les séropositifs? Comment l'éviter? Nous avons posé ces questions et bien d'autres au docteur Moutaza Lusungu Baba. Il est médecin généraliste et praticien à la clinique imagerie du Grand Lac de Beni en République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondant Erikas Mouissi.
Je suis Moutaza Lusungu Baba. Je suis médecin généraliste au sein de l'imagerie du Grand Lac. Je suis le médecin directeur.
Voilà. D'abord, parlez-nous de la tuberculose. C'est quoi cette maladie? Quelles en sont les causes et les manifestations?
Ouais, là, il y a une question qui comporte en fait des sous-questions. La définition de la tuberculose en termes simples, c'est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie qu'on appelle les Mycobacterium tuberculosis ou les bacilles de Koch. C'est ça la tuberculose. Alors, quelle en soit la cause? Vous voyez déjà, l'étiologie est là. C'est cette bactérie qui en a plusieurs types en fait. Nous avons trois espèces chez nous ici. Nous avons les Mycobacterium tuberculosis, n'est-ce pas, qui entraîne la tuberculose. Nous avons aussi les Mycobacterium bovis qu'on peut choper dans les laits, n'est-ce pas. Et on a aussi les Mycobacterium africanis qu'on trouve souvent en Afrique de l'Ouest.
Quel lien y a-t-il entre le VIH et la tuberculose? Et pourquoi la tuberculose est-elle une maladie courante chez les séropositifs?
Cette question, elle est importante. Depuis des années, on a remarqué un taux de prévalence élevé, n'est-ce pas? C'est des gens qui souffraient du VIH et on a trouvé que ces gens-là, à un moment donné, ils présentent la tuberculose. Ici, nous parlons précisément de la tuberculose pulmonaire. Parce qu'il faut quand même savoir que les mycobactéries peuvent attaquer beaucoup d'organes, mais 80% des cas, n'est-ce pas, sont les poumons qui sont atteints. Là, on parle de la tuberculose pulmonaire. La question maintenant, c'est quoi cette corrélation entre les VIH et la tuberculose pulmonaire? Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que la tuberculose, n'est-ce pas, c'est une maladie qui attaque des terrains défaillants sur le plan immunitaire, n'est-ce pas? Lorsque nous avons un terrain dont l'immunité a diminué, par exemple, les gens qui sont mal nourris, vous voyez, il y a aussi la promiscuité des milliers pauvres où les gens sont entassés. Mais il faut comprendre aussi que le VIH, c'est un virus qui vient détruire l'immunité. Et en détruisant l'immunité, n'est-ce pas, il prépare un terrain pour que cette personne-là développe beaucoup plus facilement la tuberculose par rapport à ces personnes dont l'immunité est encore bien intacte. Mm-hmm. Voilà ce que je vais dire là-dessus.
Voilà. Et quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on vit dans l'entourage d'un tuberculé et comment éviter cette maladie?
Je crois que c'est déjà très important parce que dans l'évolution, n'est-ce pas, de la maladie, dans les 5 ans qui arrivent, on a 50% des gens qui vont mourir, n'est-ce pas? Les 25% vont continuer à transmettre la maladie. Il faut comprendre que cette maladie-là, elle se transmet par les gouttelettes de fric qu'on émet, lorsqu'on crie, lorsqu'on chante, lorsqu'on tousse, n'est-ce pas? Et c'est par cette voie-là que ces gouttelettes vont entrer dans la circulation. Donc, la première chose, c'est avant tout aérer, par exemple, les locaux, n'est-ce pas? Les personnes qui souffrent de la tuberculose pulmonaire et doivent vivre dans un endroit qui est bien aéré. Ça, c'est le premier élément. Et un deuxième élément, il faudra quand même, n'est-ce pas, qu'il évite d'utiliser, et ça on le fait encore chez nous, les mêmes gobelets, mêmes plats que les gens qui sont encore sains, pour éviter, n'est-ce pas, que ces crachats-là puissent les contaminer, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, il y a toutes ces mesures-là et autre chose, la personne doit suivre les soins.
Oui, docteur, et comment soigne-t-on la tuberculose? Y a-t-il un traitement particulier pour ceux qui sont à la fois tuberculés et séropositifs?
Un traitement particulier, je ne voudrais pas dire cela, mais je voudrais dire un traitement combiné par rapport à leur taux de CD4. Ce que je veux dire, il faut comprendre chez nous, ici, en République démocratique du Congo, et plus particulièrement au Nord Kivu, dans la ville de Beni, n'est-ce pas? Nous sommes un peu en, je voudrais dire, dans la limite, vous voyez? Il y a l'Ouganda qui est à côté de nous, le Rwanda est à côté de nous, beaucoup de pays comme ça. Et ces gens, lorsqu'ils traversent, vous allez voir que les taux de prévalence du VIH est élevé, parce que nous sommes dans des zones frontalières. Alors, comment est-ce qu'on procède? Chez nous, le gouvernement congolais a déjà mis au point un programme pour lutter contre la tuberculose pulmonaire. On appelle ça l'hépatie. L'hépatie, c'est-à-dire les programmes anti-tuberculés intégrés aux soins de santé primaire. Je voulais souligner aussi que grâce à l'appui des bailleurs, c'est un traitement qui est gratuit. Mais comme c'est un programme, les patients ne viennent pas aujourd'hui, du jour au lendemain, et ils commencent ces traitements. Il y a des procédures à suivre. Notamment, il faut d'abord catégoriser les patients. Donc, selon les temps, selon les clichés, selon les signes cliniques qu'il va présenter, nous allons le mettre soit dans la première catégorie, soit dans la deuxième catégorie, si c'est un cas de rechute ou d'abandon, soit dans la troisième catégorie, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des lésions moins intenses, n'est-ce pas, ou alors, lorsqu'il y a des multi-résistances, le mettre dans la quatrième catégorie. Les traitements, ils varient des régimes de 6 à 8 mois, n'est-ce pas, pour la première et la troisième catégorie, et le régime est de 6 mois. Pour la deuxième catégorie, le régime est de 8 mois, n'est-ce pas, avec les contrôles, bien entendu. Pour la première et la troisième catégorie, on fait un contrôle au deuxième mois, on fait un contrôle au quatrième mois, on fait un contrôle au sixième mois pour déclarer si la personne est guérie, si la personne a rechuté. On constate qu'il a fini seulement les traitements, vous comprenez? Et à côté de ça, maintenant, on va faire une association. L'association, c'est, nous avons les tuberculostatiques, c'est-à-dire les produits qui arrêtent la progression des semicobactériums dans les sangs, où on va prendre les bactéricides, c'est-à-dire les produits qui éliminent carrément cela. Et on fait cette association-là, il y en a beaucoup. Je vais donner une liste des médicaments qu'on donne chez nous. On donne la rifampicine, on donne l'isoniazide, on donne l'étambitol, on donne la streptomycine. Vous voyez, il y a ces médicaments-là qu'on donne selon les catégories. Et il faut comprendre maintenant, c'est à la fin qu'on déclare si une personne est guérie réellement ou pas. Maintenant, parlons par rapport au VIH. Nous savons qu'en fonction du taux du CD4, n'est-ce pas, et de la concentration des virions, on donne les ARV ou les antirétroviraux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ici. Le but, l'objectif des antirétroviraux, c'est rendre la charge virale presque indétectable, mais aussi lutter contre les maladies opportunistes, actuelles ou à venir. Entre autres, la tuberculose. Mais il faut comprendre maintenant, une personne atteinte des VIH, n'est-ce pas, et qui présente la tuberculose, lorsqu'on introduit les soins, il y a un problème qui se pose souvent, on remarque chez nous ici, au Nord Kivu, le syndrome de reconstitution immunitaire. C'est-à-dire, la personne déjà, elle n'est pas en bonne santé, et ça se fait qu'à un moment donné, cette personne-là réagit aux médicaments, et sa situation va s'empirer. Donc, ce que nous faisons, en réalité, c'est donner d'abord les soins pendant 1 ou 2 mois, n'est-ce pas, pour que la personne soit stable, et que son corps puisse s'habituer, n'est-ce pas, aux entités, aux tuberculostatiques. Après, maintenant, nous allons réintroduire progressivement les ARV et il va continuer selon la tolérance.
Alors, avez-vous noté des cas de résistance aux médicaments antituberculeux chez certains parents? Si oui, en quoi cela est dû et comment s'y prendre?
De plus en plus de cas. De plus en plus de cas. Parce que déjà, il y a un constat, nous avons remarqué que la plupart des personnes atteintes de la tuberculose pulmonaire aujourd'hui sont des jeunes de moins de 35 ans. Pour des raisons que je viens de vous dire. Ils sont toujours chauffeurs, sont toujours commerçants, très sortir, sont toujours militaires, ils sont jamais à la maison. Et lorsqu'ils vont à l'étranger, qu'ils reviennent, ils sont séropositifs. Mais comme nous vivons dans la promiscuité, dans des milieux pauvres avec les guerres à répétition, ça fait qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Et ça favorise la maladie. Maintenant, qu'est-ce qui expliquerait cela? Je voudrais dire principalement deux choses. La première, c'est les abandons. Vous comprenez? Lorsqu'on a, vous comprenez les traitements comme c'est 6 mois. 6 mois, c'est pas facile. Et quand la personne a commencé les traitements, les signes commencent à disparaître, n'est-ce pas? La toux diminue, la fièvre diminue, ou les transpirations nocturnes ont diminué, la personne n'a plus d'asthénie, elle commence à prendre les poids. Très souvent, il pense qu'il est guéri, et à ce moment-là, il abandonne.
Lorsqu'on abandonne, on est en train de favoriser en effet la résistance. Ça, c'est un premier élément. Il y a les cas d'abandon. Mais notre point, c'est le fait que de temps en temps, n'est-ce pas, faudra nous dire, il y a un problème aussi d'approvisionnement en antituberculostatique. Parfois, nous sommes en rupture un ou deux mois, il n'y a pas de médicaments, vous voyez. Et dans ces cas-là, ces gens-là, eux aussi, d'une certaine manière, ils sont exposés aux résistances.
Et enfin, le vaccin BCG est destiné à lutter contre la tuberculose. Ce vaccin est-il accessible pour la majorité de Congolais aujourd'hui?
L'État congolais a fait des très gros efforts là-dessus. Et je crois que sur certaines choses, il faudra quand même dire merci, n'est-ce pas? C'est un vaccin qui est disponible dès la naissance. C'est le premier vaccin de notre calendrier pédiatrique ici, en République démocratique du Congo. Lorsque l'enfant naît, il est conseillé qu'il reçoive le vaccin BCG en 48 heures, n'est-ce pas? Et l'État congolais a disponibilisé, notamment avec la zone de santé chez nous ici à Beni, la zone de santé fait de son mieux pour que toutes les entités puissent être approvisionnées en intra. S'ils n'arrivent pas, ils envoient même des gens pour venir vérifier dans les maternités, en fait donner cela et gratuitement. Donc le vaccin est vraiment disponible.
Nous remercions le docteur Moutaza Lusungu Baba pour ce témoignage.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Entrons maintenant dans l'univers d'un malade. Moïse Kambalé est un jeune d'une trentaine d'années. Il est atteint d'une tuberculose pulmonaire. Il y a environ 2 ans, il a découvert qu'il était malade après avoir constaté qu'il était victime d'une toux persistante. L'examen de ses crachats a effectivement révélé qu'il était malade. Désormais, sous traitement, il a appris à vivre avec cette maladie. Voici son histoire.
Je m'appelle Moïse Kambalé. Je vis en République démocratique du Congo, province Nord Kivu, ville de Beni. Il était un jour, j'ai attrapé une toux qui a été plus ou moins chronique et qui avait duré 14 à 15 jours. Finalement, la fièvre est venue et j'ai augmenté un peu de température. J'ai aussi commencé à manquer également l'appétit. Et finalement, je me suis dit non, je dois aller voir le médecin traitant. C'est comme ça, après cet examen médical, que j'ai eu à recevoir une nouvelle, malheureusement, que je souffre de la tuberculose.
Et comment se passe votre traitement? Que prenez-vous comme médicament et combien dépensez-vous pour les soins?
C'est très difficile d'abord de recevoir les traitements adéquats dans notre pays. Mais toutefois, je partais chaque jour aller voir le médecin traitant et j'ai fait 6 mois en train de recevoir les traitements et les médicaments. Et chaque matin, je devrais me retrouver à l'hôpital devant mon médecin traitant. Et tant soit peu, et quelles que soient également les réalités précaires de la vie que nous sommes en train de recourir, nous sommes en train de recouvrir notre santé. Petit à petit.
Est-ce que dans ces centres ici, vous êtes vraiment apte?
Bon, par rapport aux soins que je suis en train de bénéficier, tout au début, je n'étais plus apte dans mon travail, mais avec le temps, je suis quand même en train de me ressaisir. Voilà que vous me rencontrez dans le lieu des services et je suis en train de travailler.
Et quels conseils et quels messages vous pouvez avoir à ceux qui ne sont pas malades? Comment doivent-ils faire pour aider ceux qui ne sont pas malades et éviter eux-mêmes d'attraper la maladie?
On dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, nous ne devons pas partager les mêmes gobelets, les mêmes assiettes. Et nous qui souffrons de cette maladie chronique, nous devons aussi afficher l'amour en d'autres pour ne pas les contaminer. Et comprendre d'abord que nous sommes souffrants de cette maladie et nous ne devons pas accepter que cette maladie soit propagée indirectement ou directement par tout le monde. C'est que nous devons être loin de ceux qui ne sont pas encore atteints de cette maladie. Ceux qui ne sont pas atteints de cette maladie, nous leur conseillons également de chaque fois laisser leurs fenêtres ouvertes. C'est aussi un autre conseil que nous pouvons dire aux gens qui ne sont pas encore atteints de la tuberculose.
Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que cette tuberculose vous a fait perdre carrément espoir dans la vie?
Pas tout à fait. Nous n'avons pas encore perdu l'espoir parce que nous sommes en train de recouvrir petit à petit la force, notre santé. Et nous ne devons pas dire que carrément nous avons perdu l'espoir. Donc un tuberculé, c'est tout simplement une personne comme une autre. Elle doit être considérée évidemment comme un être humain. C'est que je suis là, je suis en train de vivre avec les autres, mais je dois être conséquent pour ne pas accepter que je puisse partager cette maladie aux autres qui ne sont pas encore atteints. Mais ce n'est pas à dire que nous avons perdu l'espoir. L'espoir est encore là et nous pensons que dès lors que nous nous retournons dans les lieux de service, nous sommes en train de nous retrouver petit à petit et donc l'espoir est là, nous ne l'avons pas encore perdu.
Les patients de tuberculose sont des personnes souvent affaiblies et isolées qui n'ont plus l'occasion de travailler pour subvenir à leurs besoins. Plus grave encore, lorsqu'ils sont jeunes et vivent dans un contexte de pauvreté, ils peuvent devenir un fardeau pour la société. Un centre d'encadrement et de professionnalisation des jeunes a eu l'idée de récupérer et de former ces jeunes. Kaindo Kolongo Piero est le président de ce centre. Il nous a raconté ce qu'ils font pour aider les jeunes tuberculeux.
Avant 2003, nous avions d'abord fondé ce que nous appelons un atelier surnommé Stop du Bois. Vu que ça fonctionnait d'une façon privée, et j'avais vu utile de les mettre au service du public que nous appelons Centre d'encadrement et professionnalisation des jeunes. Nous avons la menuiserie, nous avons la coupe couture pour encadrer les filles et mères abandonnées. Nous avions aussi la mécanique automobile et la maçonnerie et coiffure. Et dans ces cinq domaines-là, nous avions vu utile d'encadrer nos jeunes dans la professionnalisation des jeunes et surtout dans la prise en charge du contrôle sanitaire, puisque lorsqu'on est dans un centre, on peut mieux se contrôler et avoir des formations sur ce plan sanitaire. Ça a beaucoup de peine.
Vous encadrez ces jeunes. Est-ce que parmi eux, ils parviennent aussi à faire des travaux comme tous les autres qui ne sont pas victimes de cette maladie?
Tout au début, il y a ce que vous appelez la stigmatisation. Ici, quand ils étaient arrivés, et nous les avions mis sous formation de se reconnaître comme toute autre personne, que la maladie, ce n'est pas la fin, et que s'il parvenait à mettre en pratique toutes les théories, tous les conseils prodigués par nos agents sanitaires, ils doivent vivre comme tout le monde et faire le travail et bénéficier de tous les avantages que les autres personnes peuvent bénéficier.
Alors, que vous faut exactement pour améliorer la qualité du travail que vous offrez ici?
Ici, nous éprouvons beaucoup de difficultés, surtout des spécialistes que nous appelons pour venir nous donner de la formation. Tous les professionnels là nous demandent surtout les fonds que nous n'avons pas, puisque nous existons suite à l'auto-fonctionnement. Donc les meubles que nous vendons, c'est ces mêmes meubles que nous aident à acheter les autres matériels qui laissent que nous payons toutes les charges. Donc nous éprouvons beaucoup de difficultés puisque nous avons seulement la menuiserie et faute de moyens, laissent que nous restons avec ces mêmes domaines. Alors si nous trouvons les moyens, nous pouvons activer les domaines, par exemple la coupe couture, qui encadre les femmes vulnérables, sa soutenance dans cette ville et nos jeunes gens, les orphelins, les nécessités surtout de ces domaines, la tuberculose. En tout cas, si nous trouvons un bailleur de fonds qui devrait nous aider à activer le domaine des coupes couture, en tout cas, cette catégorie de femmes ou filles serait aussi encadrée comme les garçons que vous voyez devant votre caméra.
Enfin, quels sont vos projets à long et à court terme?
En tout cas, le projet, c'est activer la coupe couture, activer la coiffure et la mécanique pour ne fût-ce qu'encadrer un bon nombre de jeunes qui, par défaut, n'arrivent pas à terminer leur cycle scolaire, surtout que les moyens ou l'économie qui se baissent dans notre République, ces bailleurs-là seraient le bienvenu, puisque tous les jeunes ne sont pas, en tout cas, légibles dans la ministérie. Aimeriez faire la mécanique et la coiffure ou autre domaine que ça.
Nous remercions Moïse Kambalé et Kaindo Kolongo Piero qui étaient au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. La question de la semaine nous vient de la RDC et notre consultant, le docteur Amangenkap, y a répondu. Le docteur Amangenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour docteur, je suis Dido Kaimbe, acteur de la société civile à Goma, au chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Docteur, je voudrais savoir, ces enfants nés avec le VIH-Sida, peuvent-ils espérer un jour guérir de cette maladie? Y a-t-il des soins particuliers que ces enfants suivent afin qu'ils grandissent avec une santé de fer?
Ce que je peux expliquer à cet auditeur, c'est que le traitement du sida connaît